Conférence spirituelle de Jackie Parmentier, 18e année, thème de cette année, parce que la finalité de tout, c'est l'amour. Aujourd'hui, 3e conférence, novembre 2011, vivre dans le milieu divin avec Pierre Teilhard de Chardin.
Il n'a pas été édité, il n'a été édité qu'après sa mort, 2 ans après sa mort, comme quasiment toute son œuvre. Il n'y a eu du temps de son vivant que quelques articles qui sont parus. Heureusement, il faisait quelques conférences à des étudiants, etc. Et véritablement, sa pensée était comme un feu de brousse, quoi. Véritablement, ça a été une lumière, une espérance pour beaucoup de ceux qui vont être les intellectuels du XXe siècle. On a beaucoup de philosophes et de chrétiens qui disaient qu'ils écrivaient des nuits entières ces conférences et se les distribuaient, quoi, à l'époque où les photocopieuses n'existaient pas, etc. Et donc il y avait une espèce de... Sa pensée a été un ferment extraordinaire, quoi, alors que l'Église avait bloqué complètement tout. Donc c'est très émouvant pour moi de penser qu'aujourd'hui on a cette liberté et qu'il y a cette reconnaissance aussi de sa pensée. Et j'ai beaucoup de... J'espère que vous entrerez, vous accueillerez, vous écouterez cette parole qui vient là. Surtout que dans le milieu divin, Teilhard dit, ce milieu divin, il écrit ça à la fin de sa vie à un de ses amis, c'est vraiment moi. C'est toute ma vie, ce milieu divin. C'est toute ma vie. C'est toutes ces questions par rapport au mystère de Dieu, à l'existence concrète et réelle qu'on vit, et comment il a essayé d'y répondre. Et il s'avère que Teilhard a cette grâce extraordinaire. C'est que c'était un homme qui a aussi aujourd'hui tellement interpellé par cette pensée fulgurante que quasiment tout ce qu'il aura dit et écrit, on veut l'éditer. Et ça va être un des hommes les plus édités où on aura su quasiment tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. La moindre personne qui a eu un courrier avec lui, ce courrier est édité, ce qui fait que c'est un homme transparent. On sait comment il vivait son quotidien, ses relations avec ses amis, ses relations avec les femmes. On sait tout ça. Et ce qui est tout à fait... magnifique, c'est que c'est véritablement en unité avec ce qu'elle dit. Il y a une unité de vie, c'est la grande recherche de Teilhard, c'est l'unité de vie. Que ce soit cohérent, que ça soit convenable, que ça fasse une vraie vie, quoi, qu'il y ait du sens. Voilà, et pour ça, j'aimerais laisser parler Teilhard. Et donc, dès que je me suis lancé dans ce travail, le désir que j'ai eu, c'était que nous puissions lire du Teilhard et que, à la limite, je le commente, mais de laisser Teilhard nous parler. Et pour ça, donc, on a fait un petit document avec Joël, on pourrait le distribuer. Et déjà, distribuer ce document. Voilà, donc vous avez là-dedans 17 pages donc de morceaux choisis du milieu divin. Je vous l'offre avec au nom de Pierre, mais aussi au nom de toutes ces femmes qui l'ont beaucoup aidé, au nom de femmes qui vraiment ont vu la lumière qu'était cet homme, de la crucifixion qu'on faisait en l'empêchant de parler et d'éditer, et qui se sont consacrées à son service en tapant ses textes, en les renéotant pour pouvoir les distribuer à quelques amis. On a donc entre autres une de celles qui a permis de connaître tous ces textes, qui s'appelle Jeanne Mortier. Donc c'est vraiment au nom de Pierre et de ces dames que nous vous offrons ce document. Et donc, comment je voudrais faire ce temps de conférence, une toute petite introduction qui est déjà enclenchée pour positionner ce texte, lire ensemble le milieu divin, et puis peut-être, si j'ai du temps à la fin, d'essayer de reprendre quelques passages bibliques qui vont nous positionner combien Théilat est là pour expliciter la grande tradition évangélique sur le mystère de Dieu. Mais je dirais que l'important, c'est qu'on écoute Théilat. Et donc, le contexte de ce document, c'est que Théilat a 45 ans. Vous savez que son illumination se fait lorsqu'il est déjà prêtre, il est jésuite, il est né en 1881. Et en 1914, il est mobilisé comme brancardier, il veut à tout prix aller à la guerre, il veut participer à cet événement-là, il veut y être en tant que brancardier, il ne veut pas être combattant, mais il veut être aidant, quoi. Et il sera plusieurs fois décoré pour d'aller chercher des gens dans des situations folles, comme étaient les tranchées à Verdun, etc. Et il dit vraiment pour lui la guerre, et il était dans toute cette affaire, d'où au monde, où ça, il a vécu de façon très intense, ça a été sa rencontre avec l'absolu. C'était un événement qui lui a permis de mystique pour lui, hein, le mot mystique viendra beaucoup dans son vocabulaire, c'est cette espèce de compréhension par transparence du mystère de Dieu, et d'y voir très clair, quoi. Et donc, en 26 déjà, il est envoyé en Chine, exilé. Donc, il vit déjà lui-même véritablement un refus de sa pensée par celle qu'il considère et qu'il considérera toujours comme étant sa mère, qui est l'Église catholique. Et donc, il est envoyé en Chine. Et là, poursuivant, hein, c'est un grand savant, il va avoir pendant toute sa vie un contact avec l'élite des savants du monde entier, à tous les niveaux. Il est un des grands géologues et paléontologues, donc qui va suivre tous les processus de l'évolution humaine. Et il s'intéresse et il est en lien avec quasiment tous les grands savants du monde, et entre autres l'intéresse de façon passionnée tout ce qu'on est en train de découvrir sur la constitution de la matière. Il a de très beaux textes sur sa visite du premier synchrotron de Berkeley. Il est passionné de ce que les hommes découvrent. Et là, lui, il est donc en 1926 en Chine, où il a un poste de géologue pour travailler sur la géologie de la Chine, et il prend ce temps pour écrire Le Milieu Divin. Alors, on commence cette lecture. Donc, en fait, le livre est fait de trois grands passages. Un premier qui s'appelle « La divinisation des activités ». La divinisation des activités, c'est-à-dire de comprendre quel est le sens de tout ce, là où on est actif, là où ça va bien, là où ça avance. Il appellera la divinisation des activités. Ensuite, il y a un deuxième grand passage qu'il appelle « La divinisation des passivités ». Là où il n'y a rien qui marche, là où tout ne va pas, la maladie, la mort, tout ce bazar qui est incompréhensible, d'essayer de trouver du sens à ça, et particulièrement à la lumière du message du Christ. Et puis, il a un troisième chapitre sur, résumé, le milieu divin. Qu'est-ce que c'est que le milieu divin, qu'on pourrait tout de suite aussi pour nous traduire par le royaume des cieux dont parle Jésus. Et puis donc, bien sûr, comme toujours, une petite introduction et une conclusion. Alors, lisons son introduction. Alors, bien sûr, hein, c'est des morceaux choisis, alors ce sera par petits bouts, une sorte de pointillé. Nous écouterons saint Paul dire aux gens de l'Aréopage, « Dieu a fait l'homme pour que celui-ci le trouve ». Dieu que nous cherchons à saisir par le tâtonnement de nos vies, ce Dieu, et alors là, voilà, déjà, on a cette claire... Pour Teilhard, c'est ça l'essentiel. La vie, c'est fait pour découvrir ce Dieu qui nous a mis dans cette situation d'exister. Et ça, c'est son introduction. Ce Dieu est aussi répandu et tangible qu'une atmosphère où nous serions baignés. Il nous enveloppe de partout, comme le monde lui-même. Que vous manque-t-il donc pour que vous puissiez l'étreindre, pour pouvoir embrasser Dieu et l'aimer, bien sûr? Que vous manque-t-il? Une seule chose, le voir. Ce petit livre voudrait apprendre à voir Dieu partout. Le voir au plus secret, au plus consistant, au plus définitif du monde. Alors, quand il va dire le plus concret, ce sera toujours vraiment la matière. C'est ça, c'est ce qui tombe sous le sens, nos yeux, ce qu'on voit, ce qu'on sent. L'immédiateté, c'est ça qui est toujours le plus concret, le plus consistant, au plus définitif du monde. Ce que renferme et propose ces pages, c'est donc uniquement, une attitude pratique, une éducation des yeux. Le monde, au cours de toute ma vie, par toute ma vie, s'est peu à peu allumé, enflammé à mes yeux, jusqu'à devenir autour de moi entièrement lumineux par le dedans. Ça fait partie du vocabulaire de Teilhard, la lumière, le lumineux par le dedans, le transparent, de pouvoir voir les choses et de ne pas rester plouf, comme ça. L'espèce de perception de la travers, comme si les choses s'illuminaient. Si vous savez apercevoir cette magnificence, vous oublierez vos craintes en face de la terre qui monte. Et quand Teilhard parle de la terre qui monte, il dit c'est le fracas de ce qui pousse. C'est le fracas de ce qui monte, comme lorsque il y a un tremblement de terre et qu'il y a une île, où il y a une île qui émerge, il y a une apparition des choses, le monde apparaît dans des fracas. Et il dit, si vous savez apercevoir cette magnificence, vous oublierez vos craintes face à la terre qui monte. Plus grand encore, Seigneur, toujours plus grand soit votre univers, et élargi afin que par un contact sans cesse intensifié et élargi, je vous tienne et sois tenu par vous. On est encore à l'époque où on n'imagine pas le tutoiement avec Dieu. On est en 1926 et là on est... Voilà, c'est toujours un vouvoiement, c'est un peu... Il faut s'habituer à ça. La marche que nous suivrons dans notre exposé sera toute simple, puisque dans le champ de l'expérience... L'existence de chaque homme se divise adéquatement en deux parts, ce qu'il fait et ce qu'il subit. Ce qu'il fait, là où on est acteur, là où on choisit, puis là, tous ces trucs qu'on ne choisit pas ou qui nous tombent dessus, ce qu'il subit. Nous envisagerons tour à tour le domaine de nos activités et celui de nos passivités. Pour chacun, nous constaterons tout d'abord que Dieu, suivant sa promesse, nous attend vraiment dans les choses. À moins qu'il n'y vienne à nos rencontres, à notre rencontre. Donc dans les choses, dans la réalité de la vie, Dieu nous y attend, mais peut-être encore plus, il vient à notre rencontre. Ensuite, nous admirerons comment, par la manifestation de sa sublime présence, les deux moitiés de notre vie, et par conséquent la totalité de notre monde, s'étant montrées pleines de Dieu, il ne nous restera plus qu'à respirer pleinement. Voilà comment, pourquoi il se lance dans ce travail d'écrire le milieu divin. Et donc, on continue sur ce premier chapitre qu'il appelle « La divinisation des activités ». Le livre fait à peu près 200-210 pages, écrit assez gros. Les livres de Teilhard ne sont jamais des gros livres. C'est vraiment une pensée d'une extrême densité. On se demande même comment il arrive à faire des livres. Pour ça qu'il y a beaucoup, il revient beaucoup sur les choses. La divinisation des activités. Notre être spirituel s'alimente continuellement aux énergies innombrables du monde tangible. Notre être spirituel, la vie intérieure, s'alimente aux énergies innombrables du monde tangible. Ce qu'il voit, ce qu'il faut, c'est voir. Voir les choses comme elles sont, réellement et intensément. Il nous faut, si nous voulons vivre la plénitude de notre humanité et de notre christianisme, surmonter cette insensibilité. Donc ça sera aussi, c'est un leitmotiv de dire que devenir de plus en plus homme, de plus en plus sensible, c'est l'insensibilité qui fait qu'il y a tant de difficultés. Faisons, il en vaut la peine, l'exercice salutaire qui consiste à suivre les prolongements de notre être à travers le monde. Nous demeurons stupéfaits en constatant l'extension et l'intimité de nos relations avec l'univers. Les racines de notre être, mais elles plongent d'abord au plus insondable passé. Quel mystère que celui des premières cellules qu'a suranimé un jour le souffle de notre âme. Alors le mot âme chez Teilhard, comme à l'époque, c'est surtout le sens d'une personne. L'âme, c'est la personne. C'est l'identité, c'est ce qui fait l'essentiel de quelqu'un. Donc le lien avec les premières cellules de notre vie, il n'y a pas d'histoire, c'est comme ça. Chacun d'entre nous est relié aux premières cellules vivantes, et on pourrait presque dire en direct. C'est qu'il n'y a eu aucune coupure dans sa lignée. Nous sommes reliés aux premières cellules. Et nous le savons aujourd'hui, par ces grands savants, des gens comme Hubert Reeves et tout ça, non seulement nos cellules, mais chacun des atomes qui nous constituent, cette petite parcelle en ce moment qui nous constitue, ont été façonnés dans les étoiles et les galaxies, il y a 12-10 milliards. Donc on a un lien étroit, profond avec l'univers. Regardons. Par la matière, en chacun de nous, c'est partiellement l'histoire entière du monde qui se répercute. Regardons autour de nous. Les vagues viennent de partout et du fond de l'horizon, par toutes les issues. Le sensible nous inonde de ses richesses, aliment pour le corps et nourriture pour les yeux. Ce résumé, cette synthèse, ne nous sont pas donnés tout à fait, tout achevés avec le premier éveil de la conscience. C'est nous, par notre activité, qui devons en rassembler industrieusement les éléments partout disséminés. Le travail de l'algue qui concentre dans ses tissus les substances répandues à doses infinitésimales dans les nappes immenses de l'océan. L'industrie de l'abeille qui forme son miel des sucs éparpillés en tant de fleurs ne sont qu'une pâle image de l'élaboration continuelle que subissent en nous, pour devenir esprit, toutes les puissances de l'univers. La manière dont nous réfléchissons, d'où venons un homme, la manière dont s'est constituée notre personnalité, la manière dont nous avons été cueillir, rassembler, accepter des pensées, des paroles, en fonction de tout ce que nous avons vécu. Ainsi, chaque homme doit construire une œuvre ou entre quelque chose de tous les éléments de la terre. Chacun d'entre nous est relié à toute la terre et à tout l'univers, et c'est notre travail de le faire. L'homme se fait son âme et en même temps, il collabore à une autre œuvre.